Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir, et c'est l'heure, Nathalie Lévy, de retrouver le débat des grandes voix jusqu'à 20h avec autour de vous, autour de la table, Nathalie, Catherine Ney, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou. Je faisais l'appel.
Parfait. Bonsoir Charles Villeneuve, bonsoir, bonsoir Gérard Carrérou. On attend Catherine d'une seconde à l'autre pour revenir en longueur ce soir. C'est le grand débrief véritablement de ce grand oral de Carlos Ghosn, l'ancien PDG de Renault Nissan, réfugié au Liban après avoir fui le Japon, qui s'est exprimé plus de 2 heures depuis Beyrouth pour donner sa version des faits, pour répondre aux accusations dans un premier temps. Je voudrais avoir votre regard d'abord, Charles Villeneuve, sur globalement cette conférence de presse. Est-ce que vous l'avez trouvé convaincant? Il est monté, j'allais dire, en puissance, il a été de plus en plus en verve au fur et à mesure. Est-ce qu'il a été convaincant selon vous, Charles et Gérard?
Moi, je pense qu'il a été très convaincant sur le système médiéval de la justice japonaise. Ceux qui s'occupent de justice, et notamment internationale, depuis un certain nombre d'années, j'en fais partie, savent de toute façon que c'est le système inquisitoire le plus impitoyable de tout le monde occidental. Ça me fait penser, si vous voulez, à l'état d'esprit du directeur du camp de prisonniers des régiments anglais dans le pont de la rivière Kwai. C'est à peu près l'égal, quand on a enquêté un peu sur l'esprit général des Japonais, c'est à peu près ça. Il ne faut pas oublier que ce sont des insulaires, et donc dès que l'on touche c'est une démocratie restreinte. Si vous y avez vécu, ou si vous avez voyagé, ou si vous avez enquêté sur les Japonais, moi, j'ai cette opinion-là. Et si vous voulez, ce qui est intéressant dans l'affaire de Carlos Ghosn, c'est qu'il a ménagé la France.
Complètement.
Même s'il a donné un coup de patte. Il a donné un petit coup de patte, notamment au chef de l'État, qui, ministre de l'économie, a engagé en réalité, si vous voulez, la méfiance des Japonais par le fameux double vote accordé à Renault et refusé à Nissan. C'est comme ça que l'affaire commence. Et c'est lui qui va payer les pots cassés. Mais il a dit et il a répondu que si la justice française le convoquait, il viendrait.
Exactement. Il l'a
parce
dit.
Parce qu'il a plutôt confiance. C'est à voir.
Alors,
c'est à voir.
On l'écoute un petit peu et je vous entends, Gérard Carrérou et Catherine Ney. Bienvenue, Catherine.
Oui.
On vous écoute bien sûr tous les deux pour avoir votre lecture de cette conférence de presse. Mais écoutons quand même Carlos Ghosn quelques instants sur sa crainte, une des craintes qu'il avait au Japon.
Moi, quelque part, le 19 novembre 2018, j'ai senti, c'est comme si j'étais décédé. Je vivais chaque jour en disant, finalement, c'est comme si j'étais mort. Vous savez, quand vous passez par une période comme ça, vous êtes paralysé. Vous vous anesthésiez parce que vous vous protégez contre la souffrance. Donc vous anesthésiez, vous ne supportez plus la musique, vous ne supportez plus les souvenirs, vous ne supportez plus les photos. Parce que quelque part, vous ne voulez pas revenir en arrière. C'est votre façon de survivre cette période. Quand j'ai vu que j'étais sorti, c'est comme si, quelque part, je revenais à la vie.
Alors, Gérard Carrérou, votre lecture, il a dit un certain nombre de choses, évidemment, Carlos Ghosn aussi, sur la collusion entre Nissan et le procureur japonais. On va y venir dans un instant.
Oui, alors d'abord, sur la prestation elle-même, c'est quand même une prestation longue. Hein, c'est pas 5 minutes ou une demi-heure. Pendant 2 heures, il a répondu à toutes les questions. Il a jonglé. Ce qui est toujours étonnant quand même, quand on voit comment les gens n'arrivent même pas à baragouiner une langue, lui il a jonglé avec
quatre langues.
Hein, puisqu'il y avait aussi. Il y avait le portugais. Bon. Mmh. Donc il a été pendant... assez époustouflant, c'était quand même... Il était redevenu pour la circonstance le grand patron qu'il était et qu'il a été pendant quand même presque 20 ans. Et c'est vrai que quand il faisait une conférence pour parler de Renault ou pour parler de ses projets automobiles, c'était un grand bonhomme. Et c'est vrai que c'était un grand bonhomme. Et tout d'un coup, on a vu les Japonais qui se sont acharnés sur lui et c'était tout d'un coup, l'icône était tombée. C'était plus qu'un sale type qui avait... dépenser l'argent de la société, qui avait fait de l'abus de biens sociaux à tour de bras. Je ne me prononce pas, verra.
Mais en tout cas, sur la forme...
Mais en tout cas, sur la forme, j'ai trouvé que c'était effectivement le mort ressuscité et il a fait une très belle prestation. Et c'est vrai qu'en contre-pied, le Japon, moi j'ai toujours pensé, je suis allé plusieurs fois au Japon, j'ai toujours pensé que c'était un pays horrible. Pas horrible en sens, ouais, il y a des belles choses, mais en termes de façon de vivre, ce n'est pas une vraie démocratie. Depuis que MacArthur, le proconsul américain, est parti, ils ont vécu toujours avec un système politique complètement abracadabrantesque, avec un seul parti au pouvoir. Il n'y a pas de système de justice, on vient de le voir. Donc voilà, ça me confirme.
Catherine Ney, le capitaine déchu, le capitaine d'industrie déchu, qui a retrouvé quand même de l'allant dans cette prestation, dans cette...
Comment c'était une... Comme dit Gérard, c'était quand même une prestation assez remarquable. D'ailleurs, je me disais comment cet homme, on se posait des questions, qui avait fait 108 jours de prison dans des conditions effroyables, même anormalement inhumaines, quoi, dormant par terre, la lumière allumée, privé de nourriture, il faisait très froid. Enfin, je me disais comment va-t-il tenir. Et moi, je pensais, alors c'est vrai qu'il était, il a fait 108 jours de prison, il était depuis le mois d'avril en résidence, assigné à résidence, mais avec l'interdiction de communiquer avec sa femme, sauf qu'à écouter, d'ailleurs, on écoutait ce qu'il se disait, on donnait à la femme les questions qu'elle avait l'autorisation de poser à son mari. Ce qui est quand même un truc incroyable qu'on n'imagine pas. C'est une torture. Et pourquoi ? C'était pour le faire craquer. Et c'est vrai qu'on se demandait dans quel état est-il, même physiquement. Or là, on voit un homme qui, au lieu... Moi, je croyais voir un type amaigri et tout ça, qui, ouais, c'est comme quelqu'un qui, tout d'un coup, était regonflé par l'oxygène et avait un tonus et une vitalité hors normes. Et là, qui avait envie de se venger aussi.
Alors, envie de
il a distillé des petites lâcheries, y compris pour la France.
Pour la France,
on comprend que Bruno Le Maire était plus ou moins visé avec une phrase que tout le monde comprenait, en tous les cas, ses avocats, sinon les téléspectateurs. En tout cas, voilà, c'est un homme qui veut combattre. Et
c'est
qui veut
un homme qui veut laver son honneur.
Laver son
exactement,
honneur.
Voilà. Il l'a dit, redit, on va le réentendre dans un instant, le débrief de ce grand oral de Carlos Ghosn avec les grandes voix.
Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, c'est tous les jours jusqu'à 20h sur Europe 1. La suite du débat des grandes voix sur Europe 1 autour de vous ce soir, Nathalie Lévy, Catherine Ney, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou.
Et je voudrais qu'on entende, bien sûr, Carlos Ghosn dans un instant, vous tous les grandes voix, et puis le président du Rassemblement des dirigeants et chefs d'entreprise libanais, parce que maintenant, l'avenir de Carlos Ghosn, c'est au moins pour un temps au Liban. C'est l'équivalent du MEDEF libanais pour être exact. Fouad Mokol, répondez tout à l'heure à Théophile Kossa.
Je retrouve le même Carlos Ghosn, le même lion, entre guillemets, qui est sorti de sa cage. Il ne faut pas oublier que cette conférence de presse a été promise il y a des mois, qu'il n'a jamais pu faire au Japon. Il a, je dirais, éclaté ce qu'il avait envie de dire depuis la première minute où il a été arrêté, à mon avis. Aujourd'hui, c'est très important, on est tous des chefs d'entreprise, on est ni des avocats pour le défendre, ni des procureurs pour l'inculper. On n'a pas toutes les pièces, en tout cas, entre les mains. Aujourd'hui, on a eu une partie qu'on n'avait pas parce qu'on n'avait qu'une version japonaise. C'est extrêmement important qu'il y ait procès, parce qu'on veut la vérité. S'il est jugé vraiment coupable sur les pièces, on dira qu'il est coupable, on ne va pas se cacher derrière notre doigt et on apprendra de sa culpabilité, on apprendra non seulement en tant que personne, mais sur nos entreprises aussi, parce que c'est bien de dire que s'il est coupable, il faut en même temps dire qu'il y a quand même eu des failles dans les trois plus grandes entreprises automobiles du monde. Donc on doit revoir même nous-mêmes nos systèmes d'audit interne, externe, de révision, etc. Et s'il est jugé non coupable aussi, quand même, je pense qu'on apprendra beaucoup d'un système japonais et on a beaucoup à apprendre.
C'est important qu'il y ait procès, vous avez entendu les grandes voix, Charles Villeneuve.
Oui, il a raison.
Il faut...
Mais évidemment, ça dépend où le procès se passe. Tout dépend du système. Rappelons quand même que le système japonais a un point crucial, c'est l'aveu, systématiquement l'aveu, et ensuite on construit autour les éléments constitutifs de preuve pour essayer d'affirmer l'aveu. Et il faut un procès équitable, donc des droits de la défense. Ces droits de la défense ne se sont pas exercés durant sa détention provisoire et sa résidence surveillée. Et enfin, les conditions de détention. C'est en cela que c'est un système, si vous voulez, archaïque, médiéval.
Il l'a dit, la présomption de culpabilité, c'est elle qui prévaut, c'est ce qu'il a dit, Carlos Ghosn.
Moi, il me fait penser à une figure historique, je ne sais pas pourquoi je pensais à lui, en écoutant Carlos Ghosn, je pensais à Nicolas Fouquet. Au XVIIe siècle.
Ah oui, nous avons tous bien connu.
Tout le monde, ou presque, a entendu parler de Fouquet, du procès Fouquet. Le roi Louis XIV, c'est pas n'importe qui, le roi Louis XIV a tout fait pour le faire condamner. Et effectivement, on l'a accusé, de la même manière que Ghosn, on l'a accusé de tout. Prévarication, il a piqué de l'argent dans les caisses, il a... C'était vrai en partie... Mais c'était largement faux pour l'essentiel. malgré la pression royale sur les magistrats, il n'a quand même pas été condamné à mort comme le voulait Louis XIV. Alors du coup, Louis XIV, fâché qu'il ne soit pas condamné à mort, l'a mis relégué à Pignerol jusqu'à la fin de ses jours.
Eh ben, c'est c'était la minute historique.
C'est ce qui attendait Ghosn. Oui, les Japonais qui condamnent à 99,4%, il était condamné.
Parce que les 06 qui restent sont morts.
Oui, absolument. Il aurait fait 20 ans de tôle s'il était resté. Donc moi, j'étais ravi le jour où cet homme s'est échappé. Alors vous me direz, il a eu de la chance d'avoir du pognon pour ses
jeunes. Oui, c'est ça. Il a listé 9 griefs pour lesquels, à chaque fois, il avait la réponse. Les réponses. Alors, il a dit, les documents, je les ai, j'en ai des tas, mais il avait des éléments très précis, Catherine Ney, déjà là, dans cette conférence de presse.
Oui. D'ailleurs, on aimerait lire plus mal à main pour bien vérifier, puis ça demande des vérifications.
Mais il a mis à disposition les documents des journalistes.
On va le faire.
Donc, les journalistes feront le travail de recoupement.
Donc, il est victime d'un complot ? Lui, il le dit.
Moi, je pense qu'il est, en tous les cas, victime d'un réflexe nationaliste profond au Japon.
Il le dit d'ailleurs,
il a donné le nom des trois personnes
qui ont ourdi
le complot, trois anciens de chez Nissan, d'ailleurs, qui ont disparu. Et d'ailleurs, ceux qui restent chez Nissan le regrettent. Il y a déjà eu, et puis il ne faut pas oublier non plus qu'il y a eu 1000 avocats japonais qui ont plaidé pour lui, qui ont dit que le système pénitentiaire et pénal n'était pas adapté à son cas.
On va l'écouter encore, Carlos Ghosn, dans un petit instant avec vous. Les grandes voix, on va revenir aussi sur ces événements au château de Versailles, parce que ça l'a poursuivi, il a voulu se défendre là aussi.
Et vous pouvez vous aussi réagir et poser vos questions aux grandes voix jusqu'à 19h, c'est le 39-21 qu'il faut composer. Nathalie Lévy, votre grand journal du soir jusqu'à 20h. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec le débat des grandes voix jusqu'à 19h autour de vous ce soir, Nathalie Lévy, Catherine Ney, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou.
Si vous n'avez pas suivi la conférence de presse de Carlos Ghosn au Liban, on vous en résume les points principaux ce soir et l'analyse bien entendu des grandes voix. Nos auditeurs aussi, Chérif, bonsoir, vous avez écouté attentivement j'imagine. Et vous, qu'en dites-vous ?
Écoutez, d'abord, bonsoir Nathalie, bonsoir Madame Ney,
bonsoir,
j'écoute depuis des années.
Oui.
Voilà. Moi j'ai écouté, mais c'est surtout, quand on m'a posé la question, c'était de dire effectivement, écoutez, je pense que ce monsieur a eu vraiment raison de fuir le Japon, quoi. Moi, c'était une grande révélation pour moi, le système judiciaire japonais, parce que pour moi, c'est une démocratie quand même, c'est pas, voilà.
Sur le papier, c'est ce que
la Chine, c'est pas la Corée du Nord, quoi. Mais j'ai été effrayé du traitement qui lui a été infligé. Alors, je ne reviens pas sur ses performances quand même d'avoir relevé, parce que ça, peut-être que les gens oublient, l'état de la situation de Nissan avant que Renault et Nissan s'associent. Moi, à ma connaissance, c'était une entreprise qui était complètement en perdition. Et il en a fait quand même, il l'a relevé complètement.
Bon,
alors, Chérif, il connaît son histoire.
Chérif, il connaît le dossier.
Oui.
Et quand vous voyez ça, et quels que soient les reproches qu'on peut lui faire, mais écoutez, il n'y a pas eu mort d'homme, quoi. On ne peut pas traiter quelqu'un de cette manière. Et je trouve que, vous savez, ça m'a fait penser à un film de guerre avec Steve McQueen qui était dans un camp de prisonniers en Allemagne.
Ouais.
Quand le droit de la guerre était respecté, eh bien, pour moi, fuir était légitime pour lui.
Ouais.
Il était dans une grande légitimité de fuir ce système-là. Après, il faut que justice soit rendue.
Voilà, il faut qu'il réponde de ses actes, comme nous le disait le président du MEDEF libanais. C'est ce que vous nous dites, Chérif. Merci beaucoup de votre appel et de votre participation ce soir aux grandes voix. Je voudrais quand même aller sur un axe qu'on n'a pas encore commenté. C'est évidemment les soirées au château de Versailles. L'une en 2014 pour les 15 ans de l'alliance Renault-Nissan, l'autre en octobre 2016 pour son mariage avec Carole Ghosn. Un mot, on écoute Carlos Ghosn, vous me dites quand même comment il s'est défendu là-dessus.
Je ne pense pas que c'était un cadeau parce que moi j'ai tout payé. Vous achetez une voiture, on vous dit, on vous offre. Bon, vous achetez la voiture, vous payez ça, mais on vous offre ceci. Bon, est-ce que vous dites, c'est un problème éthique, je ne peux pas accepter. Moi aussi, vous allez acheter une voiture, vous offre une option. Vous dites, non, monsieur, je ne peux pas accepter l'option. Parce que moi, j'ai demandé, disposer de la salle. J'ai dit, je prends vos traiteurs, je prends vos vins, je paye tout. Je paye tout. Et ils m'ont dit, bon, vous offre la salle. Bon, moi, j'ai considéré que c'était un geste commercial, mais pas gratuit. Ça faisait partie d'un package que j'avais payé.
Alors, ce geste commercial, là, franchement, Gérard Carrérou.
Il faut quand même connaître un peu Versailles, demander à Catherine Pégard, qui est maintenant la patronne depuis quelques années.
La conservatrice.
Il y a un certain nombre de grandes sociétés françaises et d'ailleurs étrangères qui trouvent que cet endroit est tellement merveilleux, magnifique, qu'ils y organisent des dîners de gala, des soirées extraordinaires.
Ce qui permet de réparer le château.
Ça permet. Alors, voilà. Le château, effectivement, vous facture.
Notamment la salle des batailles.
Vous facture, oui, vous facture beaucoup de choses. Il y a eu des grands dîners, y compris dans les galeries des glaces.
Mais oui,
moi, je vais vous dire, j'ai été dans une réception de Chanel un jour avec Lagerfeld et c'était dans la galerie des glaces.
Tu as payé ton écho ?
J'ai pas payé, j'étais invité comme journaliste. Comme
et moi, je suis allé avec Mitterrand.
Bon. Alors, tout ça pour dire, sérieusement, il n'est pas anormal que lorsqu'il était président d'une des plus grosses sociétés françaises, en l'occurrence Renault-Nissan, qu'il puisse organiser quelque chose. Alors, on dit, oui, mais c'était pour l'anniversaire, c'est un petit côté personnel. Oui, bah là aussi, il y a un certain nombre de patrons qui ne se sont pas privés de parfois de faire un petit peu, on appelle ça parfois un peu d'abus de bien social, mais qui l'ont fait. Et il a payé effectivement l'addition en grande partie. Sauf peut-être la location de la salle.
Il a remboursé 50 000 euros.
Exactement. Sérieusement, ça fait partie quand même.
Oui, mais il faut rappeler.
Mais il est dit quand même que les invités n'avaient pas de lien avec Renault Nissan. Et là-dessus, il n'a pas été clair.
Non,
Charles
non,
Villeneuve.
Mais de toute façon, cette affaire, s'il revient en France, sera tranchée, puisqu'il y a une information judiciaire d'ouverte justement sur ce fameux dîner. C'est une juge d'instruction qui est en charge et elle est en train d'enquêter, d'investir, évidemment, du temps là-dessus. Et comme il l'a dit, si la justice française me convoque, je viendrai. Et notamment, il devra s'expliquer sur cette fameuse soirée du château
et
de Versailles.
Et cette facture est évaluée à 636 000 euros.
Soirée dont les jeux japonais se foutent complètement.
Complètement,
hein.
ça n'intéresse que la France, Catherine. Ça n'intéresse que la France.
Oui. Moi, ça ne me choque pas du tout. Au contraire, qu'il ait voulu... ça participe du rayonnement de la France, de montrer aussi à des invités le château de Versailles, et ça fait rentrer de l'argent pour restaurer le patrimoine. Alors,
Alors, qu'est-ce qu'on se dit d'un mot, tous les trois, mais vraiment d'un mot, sur l'avenir de Carlos Ghosn ? Parce que là, c'est le Liban, mais est-ce que ça peut être le Liban indéfiniment ? Certainement pas, ce sera, il l'a dit, je crois, à peine une plus grande prison pour lui. D'un mot, vraiment.
Moi, je pense qu'il faut qu'il vienne en France. Si vous voulez répondre justement aux questions de la juge d'instruction... Qu'il y ait ou pas un procès, tout dépend évidemment s'il y aura des éléments constitutifs suffisants pour aller devant une cour. Mais en tout cas, ça éclaircirait son horizon.
Voilà.
Cela étant, tout à l'heure, Catherine Ney me rappelait qu'il ne pouvait plus être chef d'entreprise durant 10 ans aux États-Unis.
Voilà.
Oui, mais son avenir, effectivement, bon, tant mieux s'il arrive à convaincre de son honnêteté, qui retrouve donc son honneur, son avenir de grand patron... à qui quand même, n'oublions pas qu'Obama lui avait proposé de diriger, au moment de la crise mondiale de l'automobile et américaine, entre autres, de diriger Chrysler et General Motors.
Et il a dit aujourd'hui qu'il regrettait bien de ne pas l'avoir accepté.
Absolument.
Voilà. Merci les grandes voix. Merci beaucoup les grandes voix pour ce débrief de cette conférence de presse de Carlos Ghosn, très suivie. Merci à vous.